peut-être avec des mots très personnels pour dire merci pour tout ce que tu fais pour nous. Amen. Tout ce que tu as fait, parce que le salut, il est au-delà de nous, il est avant nous, il est au-dessus de tout ce qu'on a pu penser, imaginer. Et dans l'avenir, la nouvelle Jérusalem, c'est au-delà de tout ce qu'on a pensé. Merci pour tout cela, Seigneur. Amen. Merci, on va dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous cette semaine. N'oubliez aucun de ses bienfaits. Il vous a délivré peut-être de la fosse. Il a pardonné certainement vos péchés. Il vous a relevé dans les faiblesses. Il a été présent à vos côtés dans votre marche. Il a été le Seigneur qui vous a parlé, qui vous a rassuré, consolé. Merci au Seigneur. On le dit ensemble. Amen. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Merci parce que tu veilles sur tes enfants, sur nos enfants. Merci parce que l'Église est dans ta main. Tu en es le berger et le guide. Fais de nous des hommes, des femmes, des enfants de Dieu avec le caractère du Christ, avec la douceur et l'humilité du Christ. Reçois notre action de grâce. Amen. Car ce que tu fais dans l'Église dépasse notre entendement. Amen. Merci Seigneur. J'ouvre avec vous la parole de Dieu, la Bible, dans trois petites lectures. La première, c'est Romains chapitre 5, verset 1er. Pour parler des épreuves qui font partie de notre éducation. Romains 5, verset 1er. Étant donc justifiés, cela veut dire déclarés par Dieu, enfants de Dieu, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous attendons la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire produit l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Jacques, chapitre 2, chapitre 1er, pardon, verset 2. Épître de Jacques, frère de Jésus, et non pas l'apôtre. Chapitre 1er, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Et enfin, juste avant, Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 4. Hébreux 12, verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Amen. Amen. Je prie le Seigneur devant cette méditation importante pour notre vie. Enseigne-nous ta vérité, que ton esprit nous conduise dans toute la vérité, pour que nous soyons réellement des enfants de lumière, qui accomplissent de bon cœur la volonté de leur Père. Merci pour ta parole de ce jour, pour les frères et sœurs et l'Esprit de Dieu répandu au milieu de nous. Amen. Les épreuves, vous savez ce que ça veut dire? Vous savez qu'elles peuvent devenir des tentations de découragement et d'abandon. On a connu pas mal de gens qui ont été découragés et qui se sont réfugiés dans des espérances futiles, trompeuses. Job disait, la souffrance te dispose au mal, fais attention à toi. À mal parler, à mal penser de Dieu. Vous avez, comme moi, affaire à des situations difficiles, de plus en plus, on a l'impression, non? À des souffrances qui nous demandent du courage, du cœur, parce que ces épreuves, ces souffrances peuvent nous abattre. Je ne vais pas vous énumérer toutes vos souffrances. Il y a les difficultés quotidiennes, il y a les déceptions par rapport aux enfants, à des frères et sœurs, de la famille, il y a des souffrances physiques, il y a des obscurités, on ne comprend plus bien la vie, on ne sait plus très bien où ça mène, puis il y a des dépouillements parce qu'on nous arrache des choses précieuses. Des gens nous quittent ou des gens nous renient ou on perd des plumes, comme on dit. Oui. Et ces épreuves touchent notre cœur, notre foi, notre entourage. Et on ne peut pas les partager facilement parce que le cœur a ses propres chagrins qu'un autre ne peut pas comprendre. Alors face aux épreuves de la vie, que faire? Quelles sont les pensées qui nous accompagnent quand nous traversons des temps d'épreuves à tous les niveaux? Est-ce qu'on a un cœur partagé? On doute, on commence à dire, mais pourquoi Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas normal, c'est pas juste. Vous savez, on a un peu, comme disait Jacques dans son épître, notre cœur ressemble au flot de la mer qui monte, qui descend, qui est agité. Autrement dit, il n'y a pas de stabilité dans la foi. Quelle réflexion les épreuves de votre couple, de votre famille, de votre travail, quelle réflexion cela vous amène en vous? Voyez-vous le sens? Avec quelles armes luttez-vous contre ces choses? Il y en a qui sont fatalistes, qui se résignent. C'est une fatalité. Là, dans la vie, des choses incontrôlables, on ne peut rien faire, ni Dieu, ni moi, ni le pasteur, ni personne. D'autres disent, Ben, il faut se soumettre comme un esclave se soumettrait, comme si Dieu disposait de nous comme des esclaves et qu'il ferait de nous le mal comme un faux père, en fin de compte. Mais c'est un vrai père. Amen. Non, ce n'est pas comme cela qu'il faut réagir. Je ne pense pas qu'il faut réagir simplement avec une résistance en disant c'est injuste, il faut que je résiste. Je crois que dans les épreuves que le chrétien traverse, premièrement, Dieu est dans notre vie, il les connaît, et il faut collaborer avec Dieu. Il faut travailler avec Dieu. Il faut avoir avec Dieu une compréhension de ce qui nous arrive, et il faut y mettre la foi, il faut y mettre l'espérance. Il faut que nous soyons à la hauteur de l'Évangile. Pas qu'on pense que ça échappe à Dieu, que le hasard échappe à Dieu. Non. Parce que sinon, nous allons être dans la tristesse et ce sera un mauvais témoignage. Et on dira facilement, parce que c'est facile de critiquer les chrétiens qui tout à coup passent des épreuves. Oh, regardez-les, ils ne tiennent pas le choc, ils sont nuls. Il ne faut pas que nous donnions cette attitude-là. Il ne faut pas que les épreuves nous privent de la joie du salut. Dieu n'a pas l'intention de nous faire tomber dans le mal. Amen. Quand nous traversons des moments difficiles, ce n'est pas Dieu qui nous pousse, qui nous terrasse, qui nous provoque dans le mal. J'aime beaucoup cette parole de Jacques que nous avons lue. Regardez comme un sujet de joie complète les épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Regardez. Voulant dire, regardez comme Dieu les regarde. Regardez avec le regard de Dieu les difficultés qui sont dans votre maison, dans votre travail, dans votre santé, dans la vie. Pour comprendre les épreuves, nous avons Hébreux chapitre 12. Les épreuves sont une pédagogie, un enseignement, une éducation. Vous savez, le chapitre 12 avec moi, il est surprenant. Hein. Il y en a qui ont poussé des cris devant ce chapitre 12. On dit, comment Dieu nous châtie? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, ce chapitre 12 des Hébreux, dans vos épreuves, ne vous laissez pas abattre, ne perdez pas courage, n'oubliez pas l'encouragement de Dieu. Ma fille, mon fils, ne méprise pas la punition du Seigneur, la correction du Seigneur, le châtiment du Seigneur. Vous me direz, ce n'est pas encourageant. Non ? Dieu nous encourage en nous disant, ne méprise pas la punition du Seigneur. Quand on dit punition aujourd'hui au XXIe siècle, quand on dit châtiment, ça veut dire qu'on a fait quelque chose de mal. On a une punition à l'école parce qu'on a fait quelque chose de mal. Parce qu'on a commis un péché. Et certains voient les difficultés qu'ils ont comme des sanctions de Dieu. Combien de fois vous m'avez dit, mais qu'est-ce que j'ai fait au Seigneur? Je m'examine, est-ce que le Seigneur a vu en moi un péché? Bien sûr qu'il a vu des péchés. Et en moi aussi, en chacun. Mais les difficultés ne sont pas des punitions. Pour qu'on dise, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Seigneur, tu m'abandonnes. Nous oublions une chose. Il n'y a pas de changement en Dieu. Vous le croyez? Et le mot changement dans l'épître de Jacques, c'est un mot de l'astronomie. Quand on voit le soleil, j'ai toujours l'impression qu'il bouge, le soleil. Et vous? Il se lève là, il se couche là. Mais en fait, c'est faux. C'est pas lui qui bouge, c'est nous qui bougeons. Et parfois, quand on voit des épreuves, on dit « Dieu bouge, Dieu change ». C'est pas Dieu qui bouge, c'est nous qui bougeons. C'est nous qui, peut-être, nous sommes égarés. Il n'y a pas de changement apparent même en Dieu. Il n'y a pas d'ombre de variation. Ça veut dire exactement, il n'y a pas d'éclipse. Dieu ne se cache pas. Qu'est-ce que c'est que cette punition, ce châtiment, cette correction? Quand j'étais enfant, c'est un mot que je n'aimais pas beaucoup. Quand mon père me disait, tu vas avoir une correction ce soir. Oh, ça veut dire que ce soir, je n'allais pas y échapper et j'aurais une correction. J'en suis pas mort. Le mot correction ici, en grec, je vous fais grâce du grec pédéia, qui veut dire pédagogie. On a traduit le vrai mot, c'est pédagogie. Et le mot pédagogie, ça signifie tout simplement éducation du père. Pédagogie veut dire éducation du père. Et Dieu nous donne une éducation pour fortifier ce qui en nous est défaillant, pour affermir ce qui fléchit un peu dans notre vie de prière, pour guérir une marche boiteuse, on l'a lu, on boite, il y a quelque chose qui n'arrête pas de nous faire du mal. Ce n'est pas la correction des fautes, c'est une instruction premièrement. Ce n'est pas une sanction, c'est une éducation. Parce qu'on peut aussi vivre sans commettre tous les jours des péchés, mais il y a quand même des épreuves qui nous éduquent. Ce n'est pas une privation, c'est un enrichissement. Ça va, vous suivez bien ? Amen. C'est l'éducation de Dieu notre Père. Pas à cause de ce qu'on a fait dans le passé, mais à cause du futur. Du futur de la terre, dans 10 ans, dans 20 ans, il faut se préparer, et du futur qui est dans le ciel. Dieu ne veut pas voir arriver là-haut des mendiants, des gens, sale caractère, dépouillés de charité, d'amabilité, de compassion. Il veut voir arriver là-haut des princes et des princesses de Dieu. Amen. Dieu nous soumet à... On a lu le mot exercice au verset 11. Ainsi exercé. L'exercice en grec, c'est la gymnastique. L'entraînement. Il nous soumet à une gymnastique. Je vous avoue que c'est un peu dur. Je vous avoue qu'il y a une pédagogie de Dieu parfois que j'ai trouvée personnellement, d'ailleurs la Bible le dit, ce n'est pas un secret, parfois un peu dur. Mais jamais j'ai dit, désormais, à partir d'aujourd'hui, Dieu n'existe plus. Mais parfois on trouve difficile certaines choses. C'est une gymnastique. C'est dur la gymnastique. Hein, pour notre bien, dit la Bible. Si nous sommes des enfants de Dieu, nous le sommes ? Pas tellement. Si Dieu est notre Père, amen, oui, alors Dieu, il met en œuvre pour nous une éducation paternelle. Quand un père dit à son enfant, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux rentrer alors que tu veux, tu peux dormir où tu veux, tu peux manger quand tu veux, où tu veux, ce que tu veux, le principal c'est que tu me laisses la paix. C'est un bon père ça ? C'est un père qui perd son enfant, qui va en faire soit un meurtrier, un monstre, mais qui va le perdre. Dieu, lui, n'est pas comme ça. Il met en place une éducation pour toute notre vie. Il nous éduque par amour. Il nous éduque parce qu'il s'occupe de nous. Notre salut, ce n'est pas une signature sur un registre et Dieu classe ça dans ses archives célestes où il a des millions, des milliards de tiroirs en disant « Allez, pour le prince, c'est réglé. » Il s'occupe de moi, il s'occupe de vous, chaque jour. La vie chrétienne, le salut, c'est chaque jour. Nos épreuves ne sont pas des réparations du passé, des expiations. On ne purifie pas nos péchés. C'est le Christ qui répare la vie. C'est le Christ qui pardonne. C'est le Christ qui expie nos péchés. Amen. C'est un Père simplement qui nous aime et qui veut nous instruire pour le futur. Pour que dès maintenant sur la terre et dans l'éternité, nous puissions avoir la beauté de Jésus sur nous. Le caractère de Jésus, les réactions de Jésus, le cœur de Jésus. Il y a encore du travail. Amen. Mais Dieu, il nous éduque. Amen. Je vous dirai autre chose, Dieu prouve sa paternité. Si vous êtes sans épreuve dans votre vie, sans cette éducation, cette pédagogie, eh bien, l'apôtre dit aux Hébreux, vous êtes des enfants illégitimes. Vous savez ce que ça veut dire ? Vous êtes des bâtards. Vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Vous êtes des enfants d'un père inconnu. Si vous n'êtes jamais repris, s'il n'y a jamais de problème dans votre vie qui vous éduque, qui vous forme pour le royaume de Dieu, c'est que vous n'êtes pas des vrais fils et des vraies filles. La marque que nous sommes des enfants de Dieu, ce sont les épreuves de la vie dans lesquelles Dieu est fidèle. Dieu est avec nous. Dieu produit en nous quelque chose. Parfois, nous prions pour qu'il ne nous arrive rien de mal, non ? Rien. J'ai même entendu des évangélistes dire, avec le Seigneur, votre vie sera lisse, rose, parfaite, agréable, vous n'aurez pas de problème. Vous savez ce qu'il disait l'apôtre Paul quand il est arrivé à Thessalonique ? Il est arrivé avec des bosses, avec des yeux au bord noir, il est arrivé avec des plaies, il avait été fouetté, il avait été malmené. Et en arrivant, sa première mission d'évangélisation, il n'a pas dit aux Thessaloniciens, avec le Seigneur, tout est plat, tout est rose, tout est beau, il n'y a pas de bosses. Il a dit, vous êtes exposés à des afflictions. C'est par des tribulations qu'il nous faut parvenir au royaume des cieux. C'est une évangélisation à rebours aujourd'hui. Si on disait aux gens qui viennent, vous aurez des difficultés, mais Dieu sera avec vous. Oh, ils diraient comment ? Oh non, ça ne m'intéresse pas. Nous devons avoir, pas moi qui parle, notre part d'épreuve. Nous devons souffrir avec lui pour régner avec lui et produire en nous la beauté de la prière, la fidélité, la compassion, tout ça, ça se fait dans la tourmente de la vie. Mais ces épreuves sont la preuve que Dieu nous aime, que Dieu nous éduque, que Dieu nous perfectionne. Les épreuves du désert avec Israël, ils en ont eu des épreuves. Mais encore aujourd'hui, 4000 ans après, il y a encore des gens qui me disent « Oh, quand même, Dieu, il a un peu exagéré. » Il éduque. Il a formé son peuple pour qu'ils aient la foi en toutes circonstances. Dieu nous aime et il s'occupe de nous. Il nous a aimés en nous créant. Il nous a aimés en nous parlant, dans le salut, dans l'Église. Il nous aime en nous instruisant. Il nous aime dans la discipline qui nous fait vivre, dans la gymnastique douloureuse, parce que Dieu est présent dans nos épreuves. Amen. S'il nous dispensait de ça, ça voudrait dire que Dieu nous délaisse, qu'il ne nous prépare pas pour le royaume et pour l'avenir. Mais dans les épreuves, en grec, il est bien dit, il s'offre à nous. On l'a lu dans l'Épître aux Romains, il nous donne la patience, il nous donne la persévérance, il nous donne l'espérance, il nous donne la compassion, il nous donne son Saint-Esprit. Parce qu'on voit qu'on en a besoin et on le recherche. Il nous rend participants de sa nature, de sa sainteté. Les épreuves ne sont pas destructrices. Elles ne nous mutilent pas. Elles construisent notre personnalité de fils et de fille de Dieu. J'ai vu des gens qui me disent, moi je n'ai aucun problème. Mais ne touchez pas à l'ombre de leurs pieds, parce que ça explose. Dieu dans les épreuves nous façonne à son image. Ça prend quelques années. Pardon, ça prend toute la vie. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Et les épreuves que nous traversons ne nous empêchent pas de prier. On a toute la liberté en nous. Ça ne nous affaiblit pas. Ça nous fortifie. Parce que l'épreuve débouche toujours sur la paix de Dieu, la joie de Dieu. On est secoué, mais la paix de Dieu garde nos cœurs et nos pensées attachés à Jésus-Christ. Les épreuves ne cassent rien dans la communion avec Dieu. Dieu ne bouge pas. Il est avec nous. Il se donne à nous dans les difficultés. Et peut-être même que nous avons une communion encore plus vivante. Pour fortifier mes temps d'épreuves que j'ai eues, et vous en avez aussi, je me dis souvent, Dieu sait, Dieu est là. À travers cela, Dieu a un but, je ne le connais pas, mais qu'importe, Dieu a un but pour mon bien. Dieu me parle à travers ce que je vis. Dieu me travaille. Dieu m'affermit. Je suis à son école. Je passe des examens. Dieu me fait entrer dans la cour du royaume. Je ne suis pas sur le seuil de la maison, dans la rue. Je fais partie de la maison de Dieu. Enfin, je terminerai avec l'éducation précise de Dieu. Mes amis, frères et sœurs, avec quelle intelligence, avec quelle sûreté, avec quelle délicatesse Dieu nous éduque. Il ne prend pas de risque, il sait que nous sommes fragiles, il sait que nous sommes faits de chair et de sang. Nos parents nous ont instruits parfois plus ou moins bien, ils ont eu des échecs. Dieu mesure tout. Il mesure la capacité de chacun à vivre telle ou telle épreuve. Il mesure les possibilités, les forces de chacun. C'est comme des fils qui nous traitent, comme des fils. Et dans une maison, il y a des fils très forts, des filles très fortes et des filles plus faibles. Il nous traite comme des enfants, ses enfants. Il ne se trompe jamais dans son éducation. Quand il donne, quand il permet, quand il utilise, je vais prendre le mot utiliser, quand il utilise une épreuve de la vie à travers cela, il nous donne les moyens de changer de comportement, de redresser notre marche, redresser notre opinion sur les autres, notre opinion sur l'Église aussi, il nous donne des choses à travers cela. Dieu frappe d'une main, disait Calvin, et de l'autre, il soulage. Jamais nous ne serons éprouvés au-delà de nos forces. Jamais. Il donnera à chacun la force de triompher. Il produira en nous un sentiment de paix que le monde ne connaît pas. C'est pourquoi Dieu nous encouragera dans les épreuves. Il ne va pas nous laisser, nous abandonner. Il était avec Abraham sur le mont Morija. Il était là. Il a arrêté tout. Il a agi. Comprenez bien que Dieu ne veut pas que nous en restions à être des enfants dans les filets du malin, à se débattre dans des péchés, à se débattre dans des compromis, se débattre dans des situations qui sont au déshonneur de Dieu. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes à la gloire de Dieu. C'est le Père des esprits, c'est le Père de notre vie, c'est le Père de chaque jour de ma vie, c'est le Père de chaque nuit, de chaque temps, c'est le Père de la vie éternelle. Il fabrique la vie éternelle en nous, il fait la vie en nous, il fabrique tout cela. Il ne laisse pas les choses se faire au hasard. Il n'y a pas de hasard chez Dieu. Tout est dans sa main. Il produit en nous les sentiments du Christ, il produit en nous les fruits de l'Esprit. Le Saint-Esprit travaille en nous. Et ça se fait aussi dans les épreuves. Amen. Je conclus que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Épître de Pierre. Non seulement il souffre, mais il faut qu'il fasse encore le bien en plus. Parce que Dieu fait quelque chose de bien en eux. Je ne comprends pas tout, je n'ai pas tout compris dans ma vie. Mais pour essayer de dire, Seigneur, je te remets ma vie, mon âme, pour que tu en fasses quelque chose de beau. Toute chose, toute souffrance concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est un chemin avec des tournants, des méandres, mais Dieu conduit cela vers le bien. Le bien, ce n'est pas que vous soyez riche, avec de l'argent plein les poches, c'est le bien céleste. Que vous soyez beau, glorieux, lumineux, éternel, prince de Dieu. Amen. Et Dieu, dans nos afflictions, nous console dans toutes nos afflictions. Parce qu'il ne nous laisse pas repartir avec une jambe en moins et la tête cabossée. Il nous console dans toutes nos afflictions. Alors j'aimerais dire au Seigneur ce matin avec vous, Seigneur, je m'associe avec patience, attention, hein, à la pédagogie du Père Céleste, dans mes souffrances, dans mes nuits que je traverse, dans mes attentes, dans mes fatigues, mes incompréhensions. À travers mes épreuves, conduis-moi au-delà de ce que je suis, au-delà de ce que je peux être moi-même. Le plus grand obstacle, c'est quand même nous-mêmes, non ? C'est pas Dieu. Quand on accuse Dieu, c'est qu'on ne se connaît pas. C'est nous le plus grand obstacle. Seigneur, conduis-moi à travers tout cela, parce que je suis ton enfant que tu aimes, et que tu es mon Père qui m'aime. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Merci pour ta parole et qu'elle nous aide à comprendre, à avoir des yeux ouverts sur la main du potier, la main du maître, qui, dans les moments difficiles, façonne, travaille, agit, écrit. Aide-nous, Seigneur, à ne pas regimber comme ceux qui ne connaîtraient pas le Père, mais à te dire devant l'inconnu de la vie et ce mystère des épreuves qui nous éduque, te dire, notre Père, que ta volonté soit faite. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous du mal. Garde-nous fidèles. Que l'Esprit produise en nous des êtres, des hommes, des femmes transformés. Nous croyons dans toutes ces choses et nous te remercions pour ta présence ce matin. Amen.